aussi du contenu. Claude, donc tu as la parole.
Voilà, donc bon, pardon, bonjour à toutes et à tous. Je suis Claude Kirchner, donc d'INRIA. INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Donc, on travaille sur la recherche en informatique et mathématiques appliquées de façon un petit peu plus large que l'automatique. Très rapidement, donc, aujourd'hui, je voudrais vous dire où est-ce qu'on en est sur le développement autour d'EpiScience et de ScienceConf dans le sens de la réappropriation de nos processus d'éditorialisation et de publication. Donc tout le monde sait que le monde est devenu numérique, c'est pas nouveau. Ça ne change pas les principales missions des scientifiques, hein, qui sont de découvrir, de communiquer, d'enseigner, de transférer. Mais dans ce cadre-là, les besoins des scientifiques reposent de façon fondamentale sur l'accès et la maîtrise de l'information. Et par conséquent, permettre d'accéder à l'information, hein, lire un livre, un article de revue, etc., accéder à un corpus d'images ou à une discussion, chercher des informations, et ça c'est fondamental, chercher dans tous les textes complets et les autres données disponibles. Et puis d'autre part, agréger, analyser, structurer les informations. Par exemple, que sait-on aujourd'hui sur les virus informatiques? Et c'est justement un exemple qui va nécessiter d'être pluridisciplinaire, qui va nécessiter de regarder sur ce qu'on peut trouver à la fois dans des conférences, dans des rapports techniques, dans des livres ou autres. Publier des informations, bien sûr, des résultats, des programmes, des données, des MOOC, etc. Et puis, fondamentalement, et là aussi ça a été c'est fortement modifié aujourd'hui, permettre d'échanger, de qualifier, de certifier, de partager des informations professionnelles. Donc pour ça, aujourd'hui, on a des nouveaux outils, hein, que ce soit HAL comme étant un des services développés par le CCSD, que ce soit ISTEC, je ne développe pas plus pour l'instant, que ce soit des réseaux sociaux comme ResearchGate, Mendeley, Academia, Peer Evaluation, comme LinkedIn, donc vous avez appris récemment que la valeur, c'est juste 26 milliards de dollars, et vous avez aussi appris par la même occasion que les informations que vous y avez mises, à titre personnel, ont été revendues à Microsoft. Je ne sais pas si vous étiez d'accord, mais voilà, en tout cas, c'est fait. Les cahiers numériques de laboratoire, qui ont aussi été rachetés récemment, par exemple, par Elsevier, pour cette start-up lyonnaise, française. Donc aujourd'hui, si je mentionne un petit peu ces deux points-là, j'aurais pu aussi mentionner Mendeley, hein, développé par deux étudiants britanniques, qui, ont, après deux ou trois ans de travail intéressant, et la contribution de toute la communauté, ont permis de revendre leur travail à peu près 80 millions d'euros à Elsevier, qui en fait aujourd'hui très bon usage. Donc l'ensemble de ces outils, il faut qu'on les maîtrise. Or aujourd'hui, quand on a un outil des données qu'on met ainsi à disposition de l'ensemble de la communauté dans un contexte qu'on ne maîtrise pas, on risque de le perdre, ce qui est le cas des exemples que je viens de mentionner. Plus globalement, néanmoins, l'écosystème des connaissances, c'est à la fois un enjeu de souveraineté scientifique, mais aussi un enjeu de revenu capitalistique immédiat. Mais je pense que l'enjeu de souveraineté scientifique est plus important, hein, c'est, on pourrait dire, l'ensemble de l'iceberg, alors que celui qu'on voit apparaître souvent, bah, c'est le coût et les politiques capitalistiques autour de cette maîtrise de la connaissance, qu'il faut aussi prendre en compte, mais qui, à mon avis, ne doivent pas cacher le fait que l'objectif, vraiment, c'est de pouvoir maîtriser l'ensemble des données. J'étais invité également à une autre conférence où Elsevier se présentait comme une entreprise de big data. Donc c'est plutôt nouveau dans le contexte actuel, mais en tout cas c'est clairement un indice de leur évolution. Et donc dans ce cadre-là, c'est important d'aller vers des nouveaux modèles, et ces nouveaux modèles nous permettant de maîtriser, de rester fortement connectés aux réseaux sociaux pour tout un tas de raisons que je vais chercher à développer un tout petit peu plus, de publier aussi bien des textes, des spécifications, des données, des protocoles, des programmes, des vidéos, des MOOC, publier, rendre public. En archivant éternellement et en respectant les scientifiques et en augmentant leurs capacités. Ce qui est le dernier point n'est pas complètement évident dans tous les cas, en particulier quand il s'agit d'historiens. Et donc ça va pouvoir concerner, par exemple, trois actions complémentaires que je trouve vraiment importantes de bien pouvoir discerner, et je trouve qu'ici le public est tout à fait approprié pour bien distinguer entre publier, qualifier et valider ou certifier. Aujourd'hui, je considère que tout le monde peut publier. Publier, rendre public. Vous pouvez tweeter, vous pouvez avoir un blog, avoir une page web, pouvoir aussi publier dans un livre et un journal, ça peut être plus compliqué, dans une conférence, dans des archives ouvertes, etc. Et vous pouvez publier toutes sortes de choses, des notes courtes, des articles complets, des images, des sons, des vidéos, des programmes, etc. Donc aujourd'hui, rendre public dans le monde numérique, ce n'est pas difficile en tant que tel. Ce qui est plus compliqué, c'est de pouvoir qualifier une publication, quelque chose qui a été rendu public. Et qualifier, ça veut dire savoir quelle est son originalité, son intérêt, la qualité d'écriture, l'importance des résultats, la reproductibilité, etc. Ceci via des discussions qui peuvent être des discussions directes ou via des réseaux sociaux, en particulier scientifiques, ou par courrier numérique ou papier, ou par des rapports de lecture. J'y reviendrai. Et donc ça, c'est la qualification. Et puis à un moment donné, il va y avoir des entités, par exemple le comité éditorial d'un journal, qui va avoir à prendre des décisions en disant « oui, nous considérons que cette publication, eh bien, nous la validons dans le cadre du journal, par exemple, of Logical Methods in Computer Science ». Et donc il est accepté pour publication dans ce journal. Donc c'est quelque chose qui peut déjà être public, mais qui, d'une certaine façon, maintenant, devient labellisé par un groupe de personnes qui est, grosso modo, le comité éditorial entouré des relecteurs qui sont associés à ça. Et là, c'est une action oui-non. C'est-à-dire qu'il y a un label qui est attribué ou pas. D'accord ? Et en général, et jusqu'à maintenant, en fait, ces trois éléments de publier, qualifier et certifier, ils étaient confondus. D'ailleurs, quand on disait « j'ai publié un livre » ou « j'ai publié un article », en fait, on confondait le fait que ça devenait public, que ça avait été préalablement qualifié probablement, et qu'à un moment donné, quelqu'un avait dit « oui, je suis d'accord pour que ça devienne public ». D'accord ? Donc là, maintenant, on sépare, c'est important, les trois aspects. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'on a vraiment trois principes fondamentaux sur lesquels il faut qu'on puisse s'appuyer pour avancer de façon globale au niveau de la transmission de la connaissance scientifique. Donc d'une part, les connaissances scientifiques, c'est-à-dire les textes, les algorithmes, les programmes, etc., tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, les données d'expérimentation, les données d'usage issues des discussions ou des requêtes, hein, qui sont aussi une richesse importante, ça constitue un bien public en indivision. Ça n'appartient pas, je n'ai pas utilisé le mot appartenir, d'accord ? Je dis simplement c'est un bien public global. Les services autour des connaissances sont ouverts à la concurrence. À partir du moment où j'ai accès aux données, je vais pouvoir développer des services, et que ce soit Readers Via ou le CCSD qui développe ces services, pour moi, ce qui est important, c'est que le meilleur gagne et que les scientifiques, la société, les utilisateurs en général, puissent en faire le meilleur usage possible. Et puis, d'autre part, troisième point sur celui que je développais juste avant, c'est publier, qualifier et certifier sont trois actions qui sont différentes et qu'il faut identifier en tant que telles. Donc, basé sur ces trois principes en particulier, on a mis en place depuis le début des années 2000 l'archive HAL, qui aujourd'hui donc, est gérée par le CCSD, qui est une unité mixte de services communes au CNRS, à INRIA et à l'Université de Lyon. Et vous voyez que dans l'état actuel des choses, on est à plus d'un million de ressources affichées, dont plus quasiment aujourd'hui 400 000 objets en full texte. Donc un objet qui est vivant et sur lequel s'appuie fortement la communauté académique française, pas seulement française, mais en particulier française, suite à la décision de Geneviève Fioraccio d'en faire l'archive nationale des scientifiques français, toutes disciplines confondues. Dans ce cadre-là, on a introduit ce qu'on appelle des épirevues. Et donc l'idée des épirevues, des overlay journals, c'est donc des objets qui sont au-dessus des archives ouvertes, donc que ce soit à l'archive ou des archives institutionnelles comme celle du CWI à Amsterdam, qui sont fortement connectés à des réseaux sociaux, qui travaillent en open access, qui vont être capables de traiter des données massives et qui vont aussi permettre une gestion éthique sur le long terme des rapports de lecture. Et donc ceci, c'est ce qu'on est en train d'implémenter dans le cadre du CCSD. Et donc je vous montre très rapidement ce que c'est qu'un épijournal. Vous voyez que là, on a quelques repositories qui sont publics en open access, hein, que ce soit Archive ou une version... le portail de HAL pour INRIA ou celle du CWI, etc. Et ensuite, on va avoir une plateforme d'évaluation, et cette plateforme d'évaluation, elle va être animée par un comité éditorial. Un utilisateur va en fait déposer, publier directement dans une archive ouverte. Moi, je lui recommande à l'INRIA, mais il peut faire ce qu'il veut, hein, il peut choisir autre chose. Et une fois que c'est publié, tout le monde peut le lire. Et en particulier, il peut dire... au comité éditorial via la plateforme d'évaluation, je voudrais soumettre ce papier que je viens de publier à votre labellisation. D'accord ? Et donc, le comité éditorial va s'entourer d'un certain nombre de référis. Ces référis vont pouvoir aller lire le papier. Il n'y a pas de duplication, c'est le même objet. D'accord ? Et ensuite, faire un certain nombre d'évaluations, de qualifications, de discussions. Vous voyez qu'on crée des nouvelles données quand on fait ça. D'accord ? Je les ai mises un petit peu à part, là, en vert. Et donc, dans ce cadre-là, il va y avoir un retour qui va être fait à l'utilisateur, et ce retour à l'utilisateur va lui permettre de faire peut-être des versions successives du papier. Et l'une d'entre elles, celle qui est soulignée ici en jaune, va être en fait celle qui va être labellisée. Une fois qu'elle est labellisée par ce journal, on pourrait dire que c'est la même chose qu'un objet qui est publié dans le sens... précédent du terme publié, comme je le soulignais tout à l'heure. Voilà, donc on peut avoir des familles d'épijournaux, on peut bien sûr avoir plusieurs plateformes d'évaluation, et donc tout ça, ça va créer un écosystème qui est en train de se développer, parce qu'aujourd'hui, on voit des épijournaux qui sont développés, par exemple, dans le cadre d'Archive, on a ceux qui sont développés dans le cadre de HAL et du CCSD, et donc rien n'empêche d'avoir une foultitude de plateformes d'évaluation de ce type-là sur ce principe-là. Évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Qui décide des journaux à soutenir? Quel modèle économique? Quel est le statut des nouvelles données connectées, etc. Alors, on a un certain nombre de premières réponses. Je vais très vite, mais mes slides là, sont totalement disponibles ensuite en open access. Le soutien du CNRS d'INRIA de l'Université de Lyon, bien sûr. La mise en place de métacomités éditoriaux en mathématiques, en informatique et mathématiques appliquées. Et le projet d'étendre ces fonctionnalités à un réseau social scientifique. Ceci, par exemple, c'est un des premiers journaux qui ont été lancés dans ce cadre-là sur Data Mining and Digital Humanities. Et j'étais ravi d'apprendre que, en fait, tu collaborais à ce journal en étant référé ou membre du comité éditorial. Donc, ça perfuse déjà de façon significative. Il y a d'autres journaux qui ne sont pas encore impliqués dans ce contexte-là. Là, je parle d'IPOL, dans lequel, en fait, IPOL, c'est un journal intéressant parce qu'il publie à la fois des documents papier, un article sur un objet donné, mais aussi les programmes et la façon de faire tourner, exécuter le programme dans ce cadre-là. Donc, on peut, la reproductibilité est en quelque sorte construite par défaut dans le modèle du journal. Voilà, donc ça c'était pour EpiScience, et puis on a d'autre part une autre plateforme qui s'appelle ScienceConf, pour laquelle le modèle est similaire, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une plateforme d'évaluation qui va permettre d'organiser tout le referring process autour de la conférence, mais par ce portail qui, vous voyez, hier avait déjà accueilli 3170 conférences qui sont... ça peut être des petits événements à une dizaine de personnes, ça peut être quelque chose de beaucoup plus gros. ScienceConf permet de gérer l'ensemble des choses depuis l'appel à proposition jusqu'à la liste des participants, l'édition du programme, voire un certain nombre d'éléments relatifs à la comptabilité et au suivi budgétaire de la conférence. Tout ça, ça m'amène à dire, pour aller vers ma conclusion, qu'on va vers de nouveaux modèles de qualification par les pairs. dans ce contexte-là, parce qu'on ouvre complètement le côté académique. Et donc, ce côté qualification, là, ça peut, par exemple, être fait par de l'open peer review, c'est-à-dire tout le monde va pouvoir commenter. Dans certaines communautés, on va même voter pour dire bah, tel papier, bah, oui, on va le labelliser dans tel journal ou pas, d'accord. Et donc, il y a d'autres communautés qui restent sur des modèles qui, même s'ils sont soutenus par des outils numériques, comme je viens de montrer, restent très similaires à ce qui se passait sous une forme papier auparavant. Voilà. Et puis d'autre part, les réseaux sociaux jouent là un rôle important, je dirais vraiment fondamental relativement au partage et à la construction de connaissances. Et ce qui est important dans ce cadre-là, c'est que les données qui sont issues de ces réseaux puissent être utilisées déontologiquement par l'ensemble de la communauté scientifique. Or, aujourd'hui, quand on voit la façon dont est organisé le peer reviewing, que ce soit pour une conférence ou pour des journaux, on réalise que Elsevier en sait beaucoup plus sur la qualité des... J'ai pas d'action chez Elsevier, ni chez Springer, ni chez les autres, mais je pense qu'ils travaillent de façon intelligente et ils ont bien plus d'informations sur la qualité des personnes qui interviennent pour référer les papiers chez eux que nous n'en avons aujourd'hui dans la communauté. Par exemple, quand on regarde la promotion éventuelle d'un collègue d'une catégorie X à une catégorie Y. Donc, simplement pour dire, aujourd'hui, ces données-là, elles ne sont pas maîtrisées par nous. Et évidemment, il faudrait aller vers le fait qu'on les maîtrise de façon déontologique. Et donc, ça nous pose aussi un certain nombre de questions. Aujourd'hui, qui décide de la création d'une nouvelle revue ou du lancement d'un livre, de son comité éditorial, de l'accessibilité et de l'utilisation des données d'usage, de la politique de gestion de contenu. Et ça fait partie d'un point beaucoup plus global qui est en fait le point de la souveraineté scientifique qui constitue un élément qui doit nous permettre que HAL et les services associés soient d'aussi bonne qualité que les offres concurrentes éventuellement commerciales, que le télescope numérique, c'est-à-dire le TDM, la fouille de données, qui est aujourd'hui essentielle à chacune des sciences, que ça soit quelque chose qui soit largement ouvert et maîtrisé par les scientifiques, et donc de permettre à nos scientifiques de disposer de ces services. C'est un enjeu et un défi majeur des 5 prochaines années. Si on ne sait pas le faire dans 5 ans dans notre environnement public et comme étant gestion d'un bien public, on ne pourra plus maîtriser notre souveraineté scientifique et donc pouvoir faire de la recherche au meilleur niveau international, en particulier en France. Et donc bientôt, on va organiser un workshop sur les épis revues en automne 2016, comprendre comment ceci peut se développer, fonctionner de façon encore plus large avec un impact qu'on espère être majeur, comment on est en train d'implémenter maintenant la feuille de route du CCSD de façon à faire en sorte que chacun puisse s'approprier encore mieux l'ensemble des services développés dans ce cadre-là. Tout ce qui est la publication et la préservation des logiciels en tant que tel est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime alors quand je parle des logiciels, je parle de tous les logiciels, d'accord ? On estime à de l'ordre de 30 milliards de fichiers contenant des logiciels disponibles aujourd'hui sur notre planète. Savoir où est-ce qu'ils sont, et comment est-ce qu'on peut les consulter, comment est-ce qu'on peut les retrouver, ça fera l'objet d'une... communication publique après-demain, donc jeudi, par INRIA. Je fais juste le teaser et je vous invite à être attentif à ce qui va se passer jeudi sur ce sujet. Et puis d'autre part, le développement, ça a été déjà parlé, sur tout ce qui est métriques, nouvelles métriques, métriques alternatives pour pouvoir mesurer l'impact sans être et que ces mesures ne soient pas juste comptées à un certain nombre de publications ou de pseudo-publications à un certain moment. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Claude. Alors je sais que l'heure du repas approche, on va essayer, enfin moi j'ai trois questions à vous poser mais qu'on peut peut-être regrouper en une seule question. Donc, la première, c'est quelle échelle ? Donc, est-ce que c'est l'échelle européenne qui est la bonne ? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'agréger les initiatives ? Donc, on verra cet après-midi, il y a une presse universitaire qui vient nous parler du local. Une deuxième question qui ressort, il me semble aussi, de ce dont on a parlé ce matin, c'est quel support ? Donc, est-ce que c'est le livre, est-ce que c'est des peer reviews ou justement pour ScienceConf, il y a aussi toute une partie éditorialisation que tu as passé rapidement, mais je t'en sais gré parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et en troisièmement, c'est quelle reconnaissance, parce que est-ce que le livre, pour l'instant, le livre n'est pas très reconnu, donc le Zeit und Papier, j'ai bien aimé l'expression, donc est-ce qu'il faut développer ce système de reconnaissance pour le livre, voilà.
Je peux très très rapidement répondre aux trois questions, juste donner mon opinion. Quelle échelle, c'est le niveau français, surtout européen et mondial, qui est important, et d'une part, et d'autre part, pour ce qui concerne le niveau français, c'est avoir une référence globale sur l'ensemble de la production scientifique française. C'est un des objectifs qui est assigné en particulier à HAL et au CCSD par nos autorités de tutelle, sur l'ensemble de la production scientifique qu'on voudrait pouvoir référencer et avoir à disposition pour la production scientifique française, typiquement en 2020. Ça, c'est la première question. Quel support ? Évidemment, c'est un sujet important, mais quand on voit aujourd'hui, et vous êtes bien placé pour le savoir, l'ensemble des moyens qui sont aujourd'hui consacrés à l'information scientifique et technique dans l'ensemble de nos établissements au niveau français, c'est énorme. D'accord ? Comment faire pour que ces compétences puissent, je dirais aujourd'hui, mieux soutenir, pour pouvoir prendre le terme américain, support, comment soutenir l'ensemble de ces développements autour du numérique et qui sont cruciaux pour l'ensemble de la recherche, en particulier française. Je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire comment est-ce qu'on évolue compte tenu de la révolution qu'on est en train d'avoir dans l'ensemble de ces domaines. Donc, quel support, c'est important. Et quelle reconnaissance, alors, ça dépend à quel niveau. En tout cas, pour les scientifiques, cette reconnaissance est fondamentale tant au niveau individuel, mais je m'avancerai pas autant que le collègue précédent dans la session précédente. Mais par contre, je pense que c'est la reconnaissance de l'ensemble des travaux et quel impact ont nos travaux scientifiques sur l'ensemble de la société et des autres domaines scientifiques. Et là, je pense que justement, les outils dont on a parlé aujourd'hui nous permettent d'avoir un meilleur impact et il faut par conséquent les poursuivre. Voilà, très, très, très rapidement.
Question de l'échelle, moi je pense que c'est fondamental d'avoir des échelles qui soient transnationales, aussi bien dans les modes d'organisation des chercheurs entre eux, mais aussi dans les contenus. Et puis juste sur notre petite initiative Living Books, les auteurs sont internationaux, mais surtout les référencements, c'est-à-dire les références qui constituent ces anthologies sont multilingues, et de nature internationale. Je pense que c'est important pour une série de raisons, mais aussi pour la qualité de la connaissance produite, mais aussi pour des questions politiques et sociales. Sur les formats, je vois que se développe quand même une série de nouveaux formats hybrides. On voit les peer reviews. Je vous ai parlé un peu d'anthologie numérique. On en a cité d'autres ce matin. C'est intéressant de suivre ces évolutions, justement sans trop de réluctance, sans trop d'espoir non plus, mais sans trop de résistance. Et puis, ça amène à la question de la reconnaissance. Et je pense qu'ici, notamment les bibliothécaires ont un rôle important à jouer. Alors, on voit aussi qu'il y a des gaps disciplinaires, des fossés disciplinaires incroyables, parce que vous nous dites, comment on fait pour donner plus de reconnaissance aux livres dans les sciences du marketing ? Et puis, alors qu'en histoire, par exemple, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir obtenir un peu plus de reconnaissance pour les formats de publication électronique, qui soient homéothétiques ou non avec les modèles imprimés.
Je vais simplifier en deux, je vais réduire de 3 à 2, comme ça c'est plus... sur l'échelle, donc moi je crois fondamentalement à l'articulation des échelles. Donc si justement j'ai présenté Opéra, c'est parce que je crois profondément qu'on a besoin que les opérateurs, les acteurs travaillent ensemble à une échelle au moins européenne, effectivement. Par contre, ce qui me semble très important, c'est de ne pas lâcher l'échelle locale. Pour une très très bonne donc l'échelle humaine, je dirais, c'est-à-dire des petites équipes, des petits groupes, des petites communautés ancrées localement. Alors localement, ça peut être sur un territoire, mais ça peut être aussi localement dans une discipline ou autour d'un objet d'étude, pour une bonne raison. C'est mon voisin de droite. C'est-à-dire que les innovations, pour moi, elles ne naissent pas dans les grosses elles ne peuvent pas naître à l'intérieur des grosses organisations, elles ne peuvent naître qu'à des échelles assez réduites. Et toute la difficulté, toute la question, c'est ne pas tuer l'innovation, donc qui ne peut naître qu'à un niveau local, donc les favoriser, et ensuite prendre le relais pour que ces innovations soient soutenues, puissent se développer. Et là, on a besoin de la convergence à des échelles beaucoup plus importantes. Et ensuite, que l'innovation ne soit pas tuée. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on transforme l'innovation locale en infrastructure, ou comment on la relie à l'infrastructure sans la tuer, sans tuer le caractère d'innovation. Et c'est ça notre défi. Donc la réponse sur le niveau d'échelle, c'est les deux, mon général, en fait. Et la question, c'est comment est-ce qu'on les articule. C'est pour ça que je crois beaucoup dans les notions d'infrastructure distribuée, des choses comme ça. Après, je réponds aux deux dernières questions en faisant juste je voudrais juste faire un vibrant plaidoyer pour le livre, tout simplement. Le livre, non pas en tant qu'objet forcément matériel ou dans une forme figée par un état historique du livre, mais en tant qu'objet intellectuel, et je voudrais juste faire un plaidoyer sur en faveur de la longueur, en fait, de l'ampleur. Donc, ok, c'est très intéressant tout ce qui est en train de se développer. Je suis un de ceux qui poussent aussi beaucoup dans cette direction sur les formes conversationnelles de publication, les formes feuilletonisées, les formes sérialisées de publication, la forme fragmentée, les formes en réseau, etc., qui correspondent à l'état des technologies qui sont en train de se développer. Mais, je suis absolument persuadé que nous ne devons pas lâcher l'autre bout de la chaîne, qui sont des formes plus stabilisées ou de stabilisation de connaissances, qui sont des formes de recherche sur le long terme qui aboutissent à des productions importantes. Et c'est ça le livre. Hein. Le livre de sciences humaines en particulier, c'est une enquête au long cours qui stabilise à un moment donné un état de connaissances. Figurez-vous que j'ai appris récemment que même les physiciens des hautes énergies qui travaillent au CERN font des livres. Même eux, ils ont besoin de stabiliser leurs connaissances. Je l'ai appris par un bibliothécaire donc, du CERN qui travaille sur Zenodo, les archives ouvertes, etc., et qui a une initiative de publication de livres de physique nucléaire en open access. Incroyable. Alors là, franchement, je tombais des nues en me disant il n'y a que nous, les sciences humaines, qui faisons des livres avec les matheux, avec... un peu les informaticiens, etc. Mais même les physiciens des hautes énergies qui sont dans le modèle archive, le working paper, etc., eux aussi font des livres. Donc c'est pour dire qu'on a besoin de ne pas lâcher ce bout-là de la stabilisation des connaissances, de l'enquête de grande ampleur, et c'est ça le livre. Alors, il ne faut pas que le livre, le défi à résoudre, c'est qu'il ne faut pas que le livre soit éjecté de l'écosystème du numérique en réseau, qui est en train de se développer, mais nous devons tous travailler à ce qu'il soit intégré dedans. Donc aussi à le conversationnaliser, aussi à le horizontaliser, si vous voulez, aussi à le fragmenter, pourquoi pas. Mais il faut pouvoir le rassembler à un moment donné et dire ça c'est un livre, voilà l'état des connaissances sur ce sujet.
Merci beaucoup de vos présentations. Alors, je propose qu'on arrête là, puisque l'heure du repas, on a déjà beaucoup de retard. La conversation se continue autour du buffet et rendez-vous ici à 14h.